dir, Patriarca, 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 Patriarca.
Le beat tienne, le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes, cherche.
A butch, I wanna be a butch, 'cause butch are strong and sensitive. Butch are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight, nice and hot.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille en masculin, un garçon au
féministe,
les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois,
de 18h30
à 20h,
sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme à pur.
C'est ce qu'on m'a dit, qu'au début du XXe siècle, les femmes, elles descendaient dans la rue. Ouais, tu sais ce qu'on m'a dit, c'est qu'elles étaient en lutte, toutes ces femmes européennes-là. On m'a dit que c'était pas un mythe, que c'était pas limite. Ça a commencé le 8 mars 1857, que des ouvrières des textiles de New York s'opposèrent violemment à la police. En 1903, il débute le mouvement des suffragettes en Angleterre. Elles luttaient pour le droit de vote et plus encore. Elles n'étaient pas juste là comme ça, à avoir leur carte, non. C'était une montagne. C'était l'Eldorado. C'était la caverne d'Ali Baba, avoir le droit de vote, le papier, comme les sans-papiers et les sans-papiers aujourd'hui. Elles entendaient recourir à la violence pour obtenir l'égalité politique des deux sexes. Pendant 15 ans, elle mène des actions spectaculaires en Angleterre. Et attends, au temps de la reine Victoria, la répression est terrible. Emprisonnée, condamnée, grève de la faim, gavage de force sous ordre du gouvernement. Pendant cette lutte, Lady Constance Lipton, lors d'une manif à Londres, resta paralysée suite aux violences policières. Et ça me rappelle un peu ce qui se passe maintenant. Et pendant ce temps, une autre cravache le visage du ministre du Commerce en lui criant « Vous l'avez bien cherché !» Hé, 8 mars, tu sais ce que c'est ? Des ouvrières américaines du textile sont en grève. 15 000 nanas descendent dans les rues de New York pour demander
moins de travail, d'heures de travail, obtenir de meilleures conditions de travail, l'abolition du travail des enfants, un travail où elles auraient un salaire égal à celui des hommes et le droit de vote. Oui, le droit de vote. Oui, le droit de vote. Le fameux petit papier qui permet tant de choses et qu'on aimerait brûler. Et on m'a dit qu'en 1910, 20 féministes françaises se présentent aux élections législatives, mais leur candidature est rejetée. À Copenhague, 1910, deuxième conférence internationale des femmes socialistes, qui réunit des centaines de femmes venues des 17 pays. Clara Zetkin, journaliste, propose que les femmes socialistes, anarchistes, non, c'est moi qui le dis, et tout ce qui n'existe pas, en, c'est encore moi qui le dis, comme les femmes des colonies, c'est encore moi qui le dis, s'organisent tous les ans pour la journée internationale des femmes qui luttent pour... Cette déclaration marque un tournant, parce que tu sais quoi, on m'a dit que le 19 mars 1911, 1 million de femmes est dans la rue. Elle commémore la révolution de 1848 et la commune de Paris. C'est le bordel en Occident. Tous les dirigeants flippent à temps. Allemagne, Suisse, Autriche, Danemark. Les femmes s'auto-célèbrent, écrit le droit de travail, fin des discriminations, le droit de s'occuper des fonctions publiques, le droit de vote. Et en 1911, 140 ouvrières meurent dans un incendie. Les portes étaient fermées pour qu'elles ne sortent pas avant la fin de la journée. Et ben c'est quoi, les femmes, elles réagissent. Elles prennent la rue pendant une semaine, elles manifestent. Et puis en 1913, les Russes, ouais les Russes, rassemblement clandestin. Ça part des mouvements pour la paix. Elles protestent contre la guerre et en solidarité avec leurs consoeurs. Et là, en Russie, des femmes réclament du pain et le retour de leur mari parti au front. Il fait froid, c'est l'hiver, c'est la galère. Ce mouvement des ouvrières des tisseries, qui sont allées voir les métallurgistes pour leur demander de les soutenir. À aucun travailleur, il ne leur serait venu l'idée que c'était le premier jour de la révolution russe. Et les Trotsky, les Lénine et tout ça, eh ben, ils seraient appropriés ce mouvement. Mais les femmes surexploitées qui crient qu'enfin, le 8 mars, c'est la fin de ça. On m'a dit aussi que dans les colonies françaises, britanniques, espagnoles, portugaises, les femmes, elles luttaient. Un jour, en 1925, des femmes européennes appelèrent les autres femmes des colonies à lutter pour des luttes autonomes et solidaires. Et on m'a dit que toutes ces femmes, ces trans, ces Gwyn, oubliées depuis si longtemps, luttèrent encore et lutteront. Puis un jour obtiendront l'égalité entre tous les individus, entre toutes les personnes, sans distinction de taille, de grosseur, de beauté, de genre, de couleur de peau, etc. Le 8 mars.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue sur Dégenré, l'émission féministe pour déranger. Nous venons d'écouter un petit conte, une histoire, l'histoire du 8 mars, qui a été fait à Lyon par des meufs de l'émission féministe Lilith, Martine et les autres. Et alors donc c'est une émission qui est un peu toute jeune là, ça fait cette année qu'elles ont commencé, ouais. Sur Radio Canu à Lyon, qui est une radio associative, voilà. Et là, pour le 8 mars, elles ont fait 24 heures de radio. Pendant 24 heures, elles ont occupé les locaux de Radio Canu. Et voilà, elles ont fait 24 heures de musique, de reportages, d'interviews avec plein de meufs de plein d'horizons différents. C'était hyper chouette, voilà. Donc merci à elle pour ce petit montage et ce petit rappel historique sur ce que c'est que le 8 mars, parce que alors aujourd'hui, quand on voit ce qu'est le 8 mars, ça fait pas très envie. Hein.
Ouais, des pubs pour acheter des roses pour la fête de la femme, ce genre de choses.
Voilà, alors qu'effectivement, donc c'est toujours bien d'avoir des petits rappels sur comment, à l'origine, c'est vraiment l'histoire des luttes des femmes et de toutes les femmes.
Oui, puis c'est bien de voir comment le patriarcat et le capitalisme alliés réussissent à édulcorer les choses pour en enlever tout le sens que ça pouvait avoir à la base au niveau lutte, au niveau féminisme, pour en faire une sorte de fête commerciale, on ne sait jamais si ça peut marcher, ou alors la fête de la bonne conscience un jour par année.
Voilà, et nous ça nous énerve pas mal, parce que en fait pour nous le 8 mars c'est un peu tous les jours, c'est nos combats quotidiens contre les discriminations, pour les droits de toutes les personnes qui justement vivent plein de discriminations, et donc on parle des femmes déjà, plutôt que de la femme, déjà c'est mieux. Et puis même les femmes, c'est qui en fait ? Ben, c'est plein de personnes différentes, c'est plein de groupes différents à l'intérieur de ce grand groupe des femmes. Peut-être nous, on a envie d'affirmer notre solidarité encore plus particulièrement aux femmes pauvres, qui en chient particulièrement dans ce monde qui est anti-pauvre. Je ne sais pas comment dire.
Oui, sachant qu'aussi les femmes font partie des plus précaires. Je veux dire, c'est les hommes qui détiennent la majorité des richesses de la planète. Voilà tout. Et à l'intérieur du groupe des femmes, c'est clair que va pas y avoir les mêmes intérêts entre des femmes précaires et des femmes bourgeoises. Même si sur certaines oppressions on peut se retrouver, il y a des solidarités qui se font aussi différemment parce que les oppressions se croisent en fait.
Et voilà, c'est pas si simple. Et justement, nous, à Dégenré, depuis le temps qu'on fait les émissions, c'est justement à ça qu'on s'attelle, essayer de démêler les ficelles. Et d'analyser comment fonctionne ce système patriarcal, capitaliste, et parce qu'on pense aussi que c'est en comprenant ces ficelles-là et en les analysant qu'on peut mieux les combattre et tout ça. Alors ce soir, on va plus parler justement très concrètement de moments concrets où des femmes, des féministes s'organisent dans leur colère et dans leur révolte et dans ce qu'elles trouvent injuste. On va écouter des femmes, des caissières de Carrefour à Marseille qui racontent leur lutte, leur grève. On va aussi raconter comment, il y a quelques jours, à Lyon, des féministes ont décidé de frapper du poing sur la table pour une bonne fois pour toutes, pour se faire entendre sur ce qu'elles avaient à dire. Et ce soir aussi, puisqu'on parle des discriminations faites aux femmes, j'ai envie quand même d'adresser une pensée un peu particulière à un groupe, à une catégorie de femmes qui actuellement en France vivent des discriminations particulièrement violentes et injustes. Et moi qui m'alerte beaucoup, c'est les femmes voilées. Alors on n'en parle que pour en dire du mal. Et nous, à Dégenré, on a envie d'affirmer notre solidarité avec ces femmes. Actuellement, il y a vraiment des discriminations très graves, des femmes à qui on refuse des droits fondamentaux juste parce qu'elles ont un bout de tissu sur la tête. En fait, c'est surtout juste parce qu'elles appartiennent à une religion qui subit beaucoup de racisme et de discrimination en France. Et nous, on a envie de sortir du débat pour ou contre la religion. C'est pas notre problème, en fait. Moi, c'est pas mon problème ce que j'en pense. Mon problème, c'est de voir qu'une catégorie de personnes subit des discriminations fondamentalement injustes.
Oui, puis il faut savoir, voilà, il y a des émissions qui ont été faites de Dégenré, ça vous intéresse, sur la loi Stasi, donc qui interdit le port du foulard à l'école. Et il faut savoir qu'actuellement, il y a des projets de loi pour durcir encore plus cette loi, c'est-à-dire de passer ça, par exemple, à l'université ou dans certaines administrations, services publics. Donc voilà, je pense qu'on vous en dira plus aussi au fur et à mesure de comment ça peut se mettre en place. Soit au niveau des résistances aussi par rapport à cette loi, etc. Et c'est toujours possible d'écouter les anciennes émissions sur infokiosque.net, donc sur Internet.
Alors donc c'était le petit message. Ce soir, on n'a pas le temps de développer plus, mais n'hésitez pas à vous renseigner, à être à l'écoute et à entendre quand des personnes le disent. Alors, avant de passer justement à ce récit de cette action des féministes à Lyon, on va écouter un morceau. Qu'est-ce qu'on va écouter, Amélia ?
Alors, on va écouter un morceau de Mascotte Key. Mascotte Key, c'est un groupe féministe polonais, donc avec deux membres, qui sont sur Emancipunks, donc qui est un label qui produit, édite que de la musique, des zines féministes, etc., et qui est basé en Pologne, qui est très actif et qui a vraiment beaucoup de production intéressante. Le morceau s'appelle Musa, donc Muse. C'est un peu un morceau, on va dire, sarcastique, ironique, voyez, sur ce rôle de la muse féminine pour l'artiste qui lui est tellement indispensable. Alors, indispensable pour son inspiration, pour faire son petit déjeuner, pour laver ses habits. Et je crois à la fin, dans le morceau, elle lui dit que, ben, il peut dégager de la maison aussi. Alors, on y va pour Mascotte Key.
Vous écoutez Dégenré sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Ce soir, nous racontons une action qui a eu lieu il y a quelques jours à Lyon. Nous y étions, alors oui. Nous pouvons vous la raconter. Nous étions très heureuses d'y être et d'aller les soutenir. Ce sont des féministes qui se sont organisées à Lyon pour faire passer un message parce qu'il y avait une colère qui montait, des choses à changer, des gens à alerter pour qu'ils prennent conscience que Alors peut-être un peu plus précisément, tu vas nous raconter.
Oui, alors un peu plus précisément, c'était donc à Lyon, samedi soir. Il y avait, on était à peu près 35 personnes, des meufs, des gouines, des trans, un PD, tous et toutes féministes. Et on venait de plusieurs villes et on était une dizaine de personnes à venir de Grenoble. Et que nous, on est venus d'abord en solidarité avec les féministes lyonnaises, mais aussi parce que dans nos milieux et nos réseaux à Grenoble, l'action du coup qu'on a faite samedi et le texte qui a été lu pendant cette action nous faisait écho et nous parlait, quoi.
Parce que nous aussi, des fois, on a des petits trucs qui nous énervent. Alors peut-être je peux expliquer un peu en quoi consistait cette action en fait. Donc on est intervenu pendant un concert qui avait lieu dans un squat à Lyon. Donc on est arrivé à 35 pendant le concert, on est monté sur la scène, on a demandé au groupe d'arrêter de jouer son morceau et on a pris le micro et voilà, on a dit on a des choses à vous dire, vous avez des choses à entendre et on va vous lire ce texte. Et après vous pourrez reprendre le concert tranquille, mais voilà, ça va prendre 20 minutes et vous allez entendre ce que nous avons à dire.
Alors avant d'écouter le texte, peut-être on peut un peu replacer le contexte politique et pourquoi il y a eu cette action qui a été faite. Alors dans le milieu squat alterno lyonnais, il y a eu des comportements et des propos sexistes de la part de mecs et aussi d'autres mecs qui les ont soutenus. Et certains se sont même affirmés comme antiféministes. Du coup, des féministes lyonnaises en ont eu ras-le-bol et ont voulu faire cette action pour faire passer un message politique, foutre un coup de pression quoi sur ces mecs-là et aussi appeler à la solidarité entre meufs, gouines, trans, PD, féministes pour que plus rien ne passe.
C'était un peu leur message de fin. Alors on va vous proposer d'écouter. D'écouter cet enregistrement. L'enregistrement a été fait avec un micro qu'on avait avec nous pendant l'intervention. Alors le son, vous allez voir, est assez mauvais. Alors on parlait dans un micro, mais c'était quand même pas très très fort. Et puis surtout, vous allez voir qu'on entend les réactions du public. Alors j'ai un peu envie de raconter ça, parce que c'est vrai que c'était très impressionnant. On était très nombreuses sur la scène. Et dans le public, il y avait pas mal de monde. Hein. La salle était vraiment remplie. Moi, ce que j'ai vu, j'ai vu des filles, des meufs assez contentes de notre intervention, qui écoutaient vraiment, qui souriaient à des moments ou qui acquiesçaient, genre « Ah ouais, je vis la même chose, ça me parle bien ». Il y a eu, alors évidemment, il y a eu quelques gars qui ont fait leur gros relou, qui vous allez l'entendre, on les entend, ils crient pendant qu'on parle, ils crient « oi, féministe fasciste », enfin ce genre de subtilité. Et vous entendrez. Et pendant que ça a eu lieu, il y avait des filles dans le public qui leur ont demandé de se taire en disant « Mais nous, ça nous intéresse, on veut entendre ce qu'elles ont à dire, alors taisez-vous. » Donc il y a quand même eu un peu d'agitation aussi à un moment donné où des gens essayaient de les faire taire pour leur dire « Non mais c'est bon, on va écouter ce que les féministes ont à dire. » Ça a pris un peu du temps. Donc bon, c'est pour expliquer que le son est mauvais, mais il me semble qu'on entend quand même bien l'intervention puis qu'on saisit un peu l'ambiance. On était 35 et il y a une douzaine de personnes qui ont parlé, hein, qui ont lu le texte. Alors aussi, il y a des petites pauses entre le temps que le micro se passe et puis des personnes parlent plus ou moins fort, sont plus ou moins près du micro, tout ça. Mais je pense que c'est assez intéressant à entendre. Et aussi, oui, pour finir un peu la description de ce qui se passait dans la salle, il y avait aussi un certain nombre de mecs qui écoutaient vraiment et de mecs et de meufs qui écoutaient vraiment et qu'on sentait que, voilà, ok, d'accord, ils écoutaient ce qu'on avait à dire. Après, quand on est parti, il y a eu des applaudissements, il y a eu des cris d'encouragement, il y a aussi eu des insultes confusées. Nous sommes partis juste après, nous ne savons pas, a priori, dans la suite de la soirée, ça a débattu sévère, quoi. J'imagine que les gens en parlent encore et que c'est pas fini. C'est possible qu'à Grenoble, on en parle aussi. Et je pense qu'effectivement, c'est très bien qu'on en parle, qu'on parle de nos comportements, qu'on se remette en question, qu'on débatte. Moi, je trouve ça très bien. Tant qu'on essaye d'être intelligent et intelligente.
Moi, juste avant de passer l'enregistrement, je voudrais juste dire un mot sur la préparation de l'action. Du coup, on a fait une réunion toute l'après-midi, tout le samedi après-midi à Lyon pour préparer cette action. Et c'était, je voulais dire que j'ai trouvé vraiment chouette cette réunion parce qu'il y avait une vraie écoute et une vraie attention et que pour certaines personnes, c'était vraiment pas évident. Et le contexte était vraiment électrique à Lyon à ce moment-là. Du coup, il y a des personnes qui ont exprimé des doutes, des angoisses, des peurs. À ce moment-là de la réunion et qu'il y a vraiment une réelle écoute et une réelle attention à ce que tout le monde se sente bien et que ça aille à tout le monde en fait cette action. Voilà, et que je trouvais ça vraiment bien comment ça s'est passé parce que c'est pas toujours le cas.
Alors voilà, on vous laisse écouter cette action, la lecture d'un texte qui s'appelle « Dans ta face ».
Et ici, on ne va pas causer de relations interpersonnelles, on ne va pas parler d'affect, on ne va pas non plus parler d'affect, il va être question de rapports sociaux et politiques. On va parler de comportement et non pas de personnes. Nous, c'est-à-dire des meufs, des gwins, des trans, des PD, des féministes, jeunes, vieilles, majoritairement blanches, surtout issues de classes moyennes et validées. Donc, des personnes à la fois dominantes et dominées, nous cherchons et nous visons à créer une solidarité entre nous. Parce qu'on en a marre de jamais être écoutés. Nous ne voulons plus être dans l'illusion d'une paix sociale. Nous ne voulons plus de consensus. Et nous occupons cet espace et le temps qu'il nous faudra pour dire ce que nous avons à dire. C'est une question de genre, de rôle et de vie collective. Ce texte se base sur des expériences de vie en squat, sachant que certaines situations se retrouvent dans toute forme de vie collective, de milieu militant ou pas, et dans notre société en général. Et pour les sensibles, les propos du texte sont bien moins violents que ce qu'on peut vivre dans notre quotidien. C'est une question délicate, parce que vivre en squat, c'est pas un choix pour tout le monde, d'une part, mais qu'alors ceux et celles qui le choisissent, en principe, ont choisi le squat comme espace de déconstruction. D'accord. Mais alors comment ça se fait qu'en dedans comme dehors, on retrouve les mêmes problèmes sexistes? Dans le milieu, c'est juste plus subtil, plus vicieux. Moi, je suis un mec qui déconstruit. Ok. Alors comment se fait-il que quotidiennement, ma colère monte? C'est vraiment la colère qui monte quand t'es pire que le bourrin du bar du coin. Pire que le bourge qui te prend en stop et qui te met la main sur la cuisse. Pire que le mec de la CGT lubrique qui vient m'emmerder pendant une manif. Pire que le macho pur et dur, cash, qui prend pas de détour pour affirmer que, pour lui, les femmes, c'est de la viande à bourrer. Comment se fait-il que ta violence mal placée soit invisible au sein du collectif et me donne envie quotidiennement d'envoyer chier tous les mecs? De l'instruit déconstruit au pleurnichard victime de lui-même, victime de son éducation mâle. Du pédéphalocrate qui se planque derrière ses oppressions pour pas remettre en cause celle qu'il fait subir. Au charmant pro-féministe tant qu'il la foutra et tant qu'il trouvera des intérêts individuels, valorisation sociale, intérêts affectifs et sexuels à soutenir les féministes. À quand l'organisation entre mecs pour se déconstruire?
T'as un geste mal placé. Quand je t'en rappelle après, tu me dis que tu t'en souviens pas. Même si tu es d'accord que c'est ta fait, que ce que tu as fait, c'est dégueulasse. Mais tu t'en souviens pas. Mais tu trouves que c'est dégueulasse, mais tu t'en souviens pas. Et moi, j'ai pas de l'éponge parce que je t'aime. Et ça me fait chier parce que ton confiance a réellement été cassée. Alors comment ça s'est reconstruit, si ça reconstruit? Et d'où ça vient que je te pardonne aussi facilement?
Ça se passe pendant un événement, il n'y a pas de sleeping non mixte. T'es tout gentil, t'es tout mignon, t'es bien vu, tout le monde t'aime bien. À la fin du concert, tu te glisses dans mon sac de couchage. Tu me plottes, tu me squattes. Je suis la 15e à qui tu fais le coup. Personne te le reprochera, comme d'habitude, ça passera à la trappe. Le jour où ça parlera, le jour où mes potes voudront te péter la gueule à cause de ça, peut-être que tu te calmeras. Mes potes voudront te péter la gueule, vive les super-héros. On baillera à nouveau, on m'effacera, on me prendra ma place, on brûlera mon pouvoir de régler la question. On voudra me défendre avec condescendance, on m'infantilisera.
Et pourquoi quand il faut causer, c'est à la nana d'embrayer le sujet, de prendre sur elle pour que ça se passe bien, de choisir les bons mots? On lui reprochera peut-être de ne pas avoir dit les choses au bon moment, de ne pas avoir assuré, Ah, t'es pas la féministe que je pensais. Tu m'as laissé faire, t'as rien dit. C'est trop facile d'attendre un non verbal alors qu'il y a tellement de manières différentes d'exprimer un non. Mais en tant que déconstruite, tu devrais pas être assez fin pour capter ça. Pourquoi quand je rentre dans une pièce où il y a déjà des nanas, tu termines pas ta blague sexiste? Parce que dans ta tête, tu m'as collé à moi, l'étiquette féministe et pas aux autres. Tu te surveilles en ma présence en fonction de qui tu sais que tu vas choquer. Mais à ce moment-là, tu méprises toutes les dominées et c'est ça qui devrait toutes nous faire réagir.
Ouais.
Tu comprends mon copain macho, ce qui nous a donné envie de mettre un coup de pression parce que t'es en train de reproduire des schémas, des codes. Tu veux m'apporter ton soutien pour un truc majeur à tes yeux? Tu veux te filer bonne conscience en prenant ma partie? Mais alors tu oublies tes violences quotidiennes à mon égard. Tu oublies que je passe derrière toi quand j'en ai marre de ramasser ta merde, ce que signifie. Alors tu fais « Ah pardon, non, je suis désolée, je te laïlaï. » Et alors je te pardonne et je devrais me bagarrer moi-même contre le fait que je me sens comme une oppresseuse. Tu voudrais que je te réconforte comme une mère, tu soulignes tes efforts particuliers et tout le monde les acclame. Je te fais ta bouffe, ton ménage, dans la maison que nous partageons, où tu squattes. Tu me dis que t'es pas comme ça, désolé, c'est à toi que je pense. Parce que je n'ai pas de chromosome qui me prédispose à faire la récup et la vaisselle, quand toi, tu préserves ton petit territoire de savoir-faire. Électricité, bricolage, machin, chasse gardée, territoire conquis. Visibilité du bricoleur, ta fierté gonfle, tu te sens comme un homme avec ta petite vis dans la main. Ton marteau en gode, ça t'ouvrirait l'esprit, pense-y bien.
Ouais, mais ça lit pas.
Le travail invisible, tu connais? Les petites mains magiques. T'as l'impression de faire plein de trucs, t'as l'impression d'en faire beaucoup. Mon impression, c'est pas la peine. Moi, les critères de l'effort, au quotidien, réalises-tu qu'ils sont différents? On part pas du même point. Réalises-tu les efforts que tu tentes de fournir à travers ta déconstruction? J'ai fourni quotidiennement depuis mes 7 ans. Les chiottes, ça dit de les curer et faire la porte quand tu pisses. Et encore, on te demande même pas de pisser le coup.
Tu prépares la révolution, là? Hein? Tu vas au front? Tu t'appropries le totoïsme? Tu veux niquer le fascisme étatique? Oui! Mettre à terre ce bon vieux système d'oppression et autour d'un ventre de la grande gueule, besoin de valorisation dans le milieu, et désinhiber tes garde-fous éclatent, tu redéglingues, tu fais une blague sexiste. Mais c'est pas grave, c'est du second degré. Et puis de toute façon, il y a plus sérieux, il y a plus important, c'est putain, le feu qu'on les a bien niqués, ouais, vas-y! Et puis tant qu'on y est, pour ceux qui se permettent de se parler l'anti-féministe dans le milieu, tu ferais mieux t'afficher aux homophobes et transphobes en lançant des vieilles blagues et t'étouffer comme un imbécile. C'est vrai que depuis ta position de privilégié dominant, tu peux te permettre de déconner sur des trucs qui sont moins importants, des trucs qui te touchent pas, des trucs qui sont moins politiques, des trucs dont t'as l'abri de par ta classe sociale.
Le racisme comme le sexisme et le spécisme font partie de mécanismes d'oppression intégrés par nous toutes et ça nous fout la beuse. Quand une nana arabe et d'origine troll est agressée à une soirée, nous n'arrivons pas facilement à admettre qu'il s'agit d'un comportement raciste au sein de notre milieu et développons immédiatement des solidarités blanches. Ça montre bien qu'il existe des inégalités sociales dans le milieu, dans le racisme intégré et que nous avons vachement de travail pour le reconnaître et en tirer des conséquences.
Parlant de mécanisme intégré, on n'est pas assez conne pour pas voir l'homophobie intériorisée et aussi qu'il y a une différence entre la pédophobie et la lesbophobie. Dans l'imaginaire masculin, les nanas qui s'embrassent pour exciter les mecs, le cul de la fausse lesbienne, parce qu'on sait très bien que deux pédés qui s'embrassent, ça rentre pas dans l'imaginaire des fantasmes des mecs hétéros. Quand est-ce que tu te rendras compte que ton imaginaire aussi a été colonisé, crétin?
Le meuble agréable à l'œil, la plante verte sensible, pratique, folie,
et puis d'abord, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les hommes? C'est une question de se faire avoir et de le réaliser après coup. C'est la différence entre un relou de base et un mec qui se dit en processus de déconstruction. Quand le mec fait un coup bas, par en dessous, sans réaliser que c'est avoir l'impression de faire des concessions sur ces violences sexistes, d'en arriver à s'exclure, à se foutre les boules sous silence. Une violence qui n'est pas évacuée au bon moment, mal gérée, qui éclate là où ça ne faut pas. C'est l'impossibilité d'exprimer sa colère au bon moment, ou bien la réaction du mec qui va prendre la colère comme une critique, comme une remise en question de sa connerie, et finir par se retrouver dans la position de la goulou de service. C'est la solitude en embrouille, la non-reconnaissance de la justesse de sa colère et de son ressenti, jusqu'à ce qu'on nous traite de misandre ou d'hystérique.
C'est la question d'une violence quotidienne qui me renferme, me bouffe, me mène à perdre confiance en moi, dans le collectif et le comportement de certaines personnes. J'en ai pas contre toi, c'est ton comportement qui me fait gerber. J'ai pas envie de taire ma colère, plus envie de faire des concessions. Tu te plains de ta déconstruction, tu dis que c'est dur, vu que tu dois abandonner tes privilèges. C'est dur mon cul, ta gueule est continue, et si jamais je te prends à vouloir me mettre dans le rôle de l'oppresseuse, permets-moi de douter de la sincérité de ton désir de te déconstruire. Quand tu me fais me sentir mal de t'avoir engueulé pour un comportement mal placé de ta part, ça me fait douter que t'aies envie réellement de larguer l'homme en toi.
Nous sommes nombreuses à ressentir cette colère. Nous ne sommes pas beaucoup à l'extérioriser, ouvertement, en dehors de la non-mixité. Combien de nanas qui tempèrent, s'écrasent ou se mettent tout simplement du côté des mecs? On parle de comportement, on se met ça dans la tête.
Et quand je m'énerve et que tu me dis de me calmer, quand je tape un matériel ouvert et que tu lances pour pas s'énerver comme ça, me dis pas de me calmer, me dis surtout pas de me calmer. Dis-moi que ça te choque, que ça te dérange, que ça te peine ou que ça te pousse. Ouais, la meuf là qui défonce le matos, elle est vénère là, je sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi, et d'ailleurs tu t'en fous. Alors me dis plus, me dis surtout pas de me calmer, parce que là, je vais juste avoir envie de t'éclater.
Et ce qui m'énerve encore plus, c'est tes solidarités systématiques et mal placées avec d'autres mecs. Celle où tu prends la défense d'un pote pendant une embrouille causée par une agression. Celle où tu couronnes une agression et elle est seule à l'être. Et où tu fermes les yeux. Celle où tu te mets en place une solidarité avec un violeur et un oppresseur en disant que c'est pas cool de l'exclure. Celle où tu fais semblant de ne pas voir une personne pour une discussion, en lui coupant la parole ponctuellement. Ou en lui en demandant jamais son avis si cette personne ne dit rien. Et si elle ose, si elle casse l'ambiance, tiens, là, la foutueuse de merde. Celle où tu ne veux pas entendre les ressentis de ta pote parce que ça va à l'encontre de tes propres intérêts. Et on ne parle pas de toutes les micro-solidarités au quotidien, la liste est trop longue et t'es forcément concerné.
Et quand tu te retrouves désarmé face à ma colère, t'essayes de retomber sur tes pattes, tu te justifies, tu te mets à pleurer. Tu manipules mots, théories et réalités, tu t'énerves, tu te sens obligé de t'excuser. Je suis désolée, mais tu essaieras toutes les tactiques du mec jusqu'à ce que tu méprises. Prends sur toi, bouffon, arrête de dire qu'il y a pire que toi. Tes batailles de coq, y en a marre. Ta grande gueule de boulot bourré, y en a marre. Ferme-la, assieds-toi et écoute les autres. Être tout le temps disponible pour écouter ou baiser, attendre que t'aies compris, pour cadrer, y en a marre. Grève de la disponibilité, on débraye, nous avons mieux à faire. Cette action est un appel à la solidarité entre meufs, oui, trans, PD, féministes, pour que plus rien ne passe.
Et les toxicos, t'en fais quoi ?
Milieu hétéronormé à t'en crever les yeux, qui changent en apparence leur comportement, font de belles phrases et acquiescent gentiment en léchant les bottes de leurs potes féministes, voire même se revendiquent antisexistes, mais n'ont rien changé à leur façon de penser. Ils continuent d'écraser les minorités en prônant l'égalité, empêchent les mécontentes de parler de peur de perdre leur position, qu'ils se cachent bien d'accepter, mais ne font surtout rien pour la refuser. Courbette par devant, coup de dent par derrière, je désespère de les voir changer, les voir penser qu'il n'y a pas de lutte possible si on laisse pas tomber nos privilèges.
Alors pour les féministes, y a pas de repos, faut répondre à tous les coups dans le dos. Pas le temps de respirer, espoir ruiné, de penser que le message est passé, c'est trop beau pour être vrai. Se rendre compte que tout ça c'est du pipeau et que personne n'a pigé et que tout le monde s'en pipait, fin de comprendre, sans désapprendre. Et au final se comporte
en bon petit soldat du patriarcat. On rendra chaque coup avec attention, on laissera pas casser nos revendications. Plus de gaffe baissée, plus de mots pour excuser, y'a que le combat. En réponse au coup bas, on lâchera rien, on prévient. Au quotidien, difficile d'y reconnaître. Ils agissent en bon prophème, ces traîtres. Mais ils commettent des erreurs de temps en temps, des lapsus, des phrases, des comportements qui te montrent qui ils sont vraiment. ce genre de mecs totalement déconstruits qui font la bouffe, la vaisselle et compagnie. Mais quand il s'agit de bricoler, ils t'enlèvent les outils des mains parce qu'il paraît, ils en sont persuadés qu'une bite vaut mieux qu'un vagin. Sans commentaire sur leur vision binaire, ces personnes pullulent dans notre milieu libertaire. Et ils sont nos potes, nos amants, nos frères. Alors pas facile de les faire taire. On rendra chaque coup avec attention, on laissera pas casser nos revendications. Plus de gardes baissées, plus de mots pour excuser, y'a que le combat. En réponse au coup bas, on lâchera rien, on prévient.
J'ai la beuge, quand je vois des amis après quelques verres en qui est se comporter en pourriture finie. Le politiquement correct s'envole, les masques tombent dilués par l'alcool. Les biotiques réapparaissent plus vite dans les vapeurs éthyliques. Et l'accro révèle les ennemis, mieux que le marc de café quand on lit. Et le relou ressurgit, il est toujours vivant. Il ne s'est pas assagi,
il est bien présent.
Demain c'est sûr, il reviendra et on l'attend.
On rendra chaque coup avec attention, on laissera pas casser nos revendications. Plus de gardes baissées, plus de mots pour excuser, y'a que le combat. En réponse au coup bas, on lâchera rien, on prévient. En cas d'agression, pas de doute, ils sont là à soutenir le pote, le frère ou juste le mec qu'ils connaissent pas. Parce qu'il ne fait aucun doute que les meufs, ça exagère, ça parle de viol pour faire réagir. Alors qu'en réalité, c'est juste des histoires futiles pleines de banalités. C'était pas un viol, y'a pas eu de pénétration. Oh, elle l'a cherché aussi, elle l'a allumé.
Ça me fout trop la haine pour pleurer sur ce genre de réflexion à gerber. L'ennemi étant chacun de tapis à l'intérieur, attendant son heure
pour revenir,
attendant une erreur
pour ressurgir. On rendra chaque coup avec attention, on laissera pas casser nos revendications. Plus de gardes baissées, plus de mots pour excuser, y'a que le combat. En réponse au coup bas, on lâchera rien, on prévient.
Vous êtes toujours sur Dégenré, l'émission féministe sur Radio Kaleidoscope 97FM. Alors après le son de cette action collective forte à Lyon, dont vous a parlé avant, vous venez d'écouter un morceau de Viscéralement Déviant, donc en rapport avec l'action, comme vous avez pu le voir. Donc Viscéralement Déviant, c'est un groupe transpédéguine de Lyon. C'est une gouine, un trans qui viendront en concert à Grenoble. Oui. Donc ce concert, ça sera le mercredi 18 mars à la Isla Bulita à partir de 18h30.
Et je crois qu'il faut être à l'heure parce que comme les voisins ont les oreilles sensibles, je crois que le concert est assez tôt.
Ouais, que c'est un concert en semaine. Donc la Isla Bulita, c'est une maison squattée là qui est resquattée depuis novembre, qui avait déjà été squattée l'année dernière et expulsée vu que bon, la propriétaire n'en avait toujours rien fait, hein, que c'était muré. Des gens se sont dit pourquoi ne pas retourner l'habiter. Donc il y a assez régulièrement des activités. Pour le concert dont je vous parle, donc ça sera Viscéralement Déviant et Zosh, un groupe de Riot Girl électropunk allemand. Voilà, c'est une soirée à prix libre. Sinon, toujours qu'on est dans les infos sur le programme de ce squat, si vous nous écoutez en direct ce mercredi 11 mars, vous pouvez aller voir un film qui fait partie de la série Culture PD, donc un cycle, il y a déjà eu d'autres projections de films. Ce soir, la projection, ça sera Un chant d'amour de Jean Genet. En gros, c'est plutôt un moyen métrage sur deux prisonniers qui communiquent d'une cellule à l'autre, plus ou moins sous la surveillance de leur gardien de prison. Le deuxième film, qui est lui un long métrage, c'est Pink Narcissus, un film gay culte. C'est un film muet, plutôt onirique, qui parle des fantaisies érotiques d'un jeune homme gay. Dans une version un peu psychédélique et kitsch. Donc voilà, ça c'est ce soir, mercredi 11 mars à 20h30.
Peut-être dire où c'est, la Isla Bulita.
Mais oui, tout à fait. Donc la Isla Bulita, c'est 19 rue Blanche-Meunier. Si vous venez en tram, il faut prendre le tram B arrêt Ilvert. Voilà, et après, c'est à 5 minutes à pied. Alors, tant qu'on était dans les infos squat, on voulait dire un petit mot sur l'actualité, parce qu'on n'en a pas trop parlé dans des genrés cette année. Juste pour dire qu'après une rentrée difficile avec vraiment un accroissement, on va dire, de la répression anti-squat de la part des pouvoirs publics, hein, que ce soit les flics, la préfecture, mais surtout vraiment la mairie de Grenoble, hein, principalement. Donc il y a eu une série d'ouvertures et d'expulsions avec un certain nombre de répressions aussi. Voilà, suite à ces expulsions, il y a aussi eu un certain nombre de procès. Ça, on en dira peut-être plus prochainement. Il y a eu un premier procès où les gens ont été relaxés parce qu'il n'y a vraiment aucune preuve contre eux, et on en dira plus sur la suite des procès. Mais bon, il y a quand même quelques maisons qui tiennent, mais qui sont aussi expulsables. Donc pour l'instant, la Isla Bulita, ça va, mais il y a aussi un autre squat, la Trappe Crise, qui se trouve à l'Esplanade, qui est expulsable depuis le 24 décembre, vu que le 24 décembre, la juge a déclaré une expulsion immédiate, sans délai. Joyeux Noël, hein, allons-y. Pour l'instant, quand nous enregistrons, ce n'est toujours pas expulsé. Mais voilà, c'est possible que ça se fasse vraiment incessamment sous peu. Donc, si vous voulez, c'est encore possible de faire pression, soit en téléphonant à la mairie, à la préfecture, pour protester contre cette expulsion. Sinon, il y a aussi l'hôtel de ville. Donc un autre squat, lui, qui est situé en face du chantier de la caserne de Beaune, qui est aussi menacé d'expulsion. Et à l'heure où on vous parle, bon, pour l'instant, il est toujours là. Sachant que si vous avez suivi le projet de chantier de la caserne de Beaune, c'est quand même principalement pour construire des appartements de luxe. D'ailleurs, on peut le voir quand on passe devant. Il y a des superbes affiches avec l'utilisation assez gerbante d'une petite fille habillée façon bourgeoise. 17e siècle ou je sais pas quoi, avec marqué les soirées privilèges, hein, n'est-ce pas, pour pouvoir acheter ou louer son appartement de luxe. Donc voilà, c'est pour ça qu'on met des gens à la rue. Bon, pour l'instant, c'est un peu ce qu'on voulait dire sur cette actualité-là. Puis on vous donnera peut-être plus de nouvelles prochainement. En tout cas, n'hésitez pas toujours à, je sais pas, donner votre avis, protester. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller sur Indie Media Grenoble, où il y a un peu tout le récit au niveau des squats cette année, et aussi peut-être plus de pistes au niveau de la résistance.
Et puis toujours l'actualité des différentes luttes, locales et aussi extra-locales. Et alors, en parlant de lutte extra-locale, vu qu'aujourd'hui on avait un peu envie de parler de différents combats, de différentes luttes, on vous propose d'écouter un reportage qui a été fait à Marseille. Alors, il a été fait par une émission complice de Dégenré, une autre émission féministe. Ce soir, on fait de la pub à nos camarades, hein, donc après Martine, Lilith et les autres à Lyon. Le complot des cagoles à Marseille, une émission féministe aussi, qu'il est possible aussi d'écouter sur Internet, et elles font des super trucs.
C'est sur Radio Galère.
Voilà. Et l'année dernière, elles ont été interviewées des caissières de Carrefour, donc d'un grand Carrefour qui est au-dessus de Marseille, Carrefour Grand Littoral, qui avait mené une lutte pour une augmentation de salaire et il me semble...
Il y avait différentes autres revendications, mais qu'elles vont expliquer dans le reportage.
Voilà, de toute façon, elles expliquent bien tout ça. Et voilà, on vous propose d'écouter ce reportage après le morceau de musique que nous allons écouter, qui est...
Un morceau du groupe Geek Girl qui s'appelle « Fuck You ».
Fuck you. Carrefour Grand Littoral, jeudi 27 mars, il est midi. On a rendez-vous avec des travailleuses de l'enseigne, de celles qui ont participé à la lutte de 16 jours qui s'est déroulée début février. Une lutte inédite et fort médiatisée. Alors plus d'un mois après, que reste-t-il à dire ? Assurément, la rencontre aurait été différente un mois auparavant, autour d'un bras zéro. Maintenant, la routine a repris et on a un peu de mal à trouver un endroit où discuter. L'espace marchand a repris tous ses droits et rappelle qu'on n'est pas là pour bavarder, mais pour consommer ou travailler.
Vos courses vous rapportent de l'argent. Carrefour.
La qualité pour tous.
La rencontre se fait, faute de mieux, dans un couloir, entre deux portes battantes, entre deux tranches de travail. Le temps presse un peu.
C'est comme pour les temps de pause, on a 3 minutes par heure. Ça veut dire qu'on fait 7 heures, on a 21 minutes. Et avant d'aller acheter à manger, on est obligé de pointer. Donc le temps qu'on pointe, qu'on arrive à la sandwicherie pour acheter à manger, on a perdu déjà 10 minutes. Le temps qu'on arrive en salle de pause, parce qu'on nous a changé de salle de pause, on est en haut, la pause elle est finie.
Pour cette pause déjeuner, Carrefour leur accorde gracieusement un ticket restaurant de 3 euros. À peine de quoi s'acheter un sandwich. Une des revendications de la grève, c'était justement l'augmentation de ces tickets restaurants, symbole du mépris patronal et de leurs conditions de travail.
Alors qu'est-ce que j'ai à dire sur tout ce qui s'est passé par rapport à notre grève ? Alors ça s'est déclenché bien avant, je pense. C'est un état d'esprit qu'on a actuellement dans le magasin. On a un gros problème d'argent. On travaille et on est considéré comme des emplois précaires. Donc déjà à la base, on a des horaires un peu certains difficiles. Il y en a qui commencent à 3 heures du matin. Il y en a qui commencent à 4 heures, à 5 heures. Après, il y a des gens comme les caissières qui ont des coupures d'une heure pour reprendre le travail après la journée. Donc, tout ce qui pose comme problème pour garder les enfants. Bon, moi, je suis employée de rayon. Je ne commence pas à 3 heures du matin. J'ai un avantage sur les autres, c'est que je suis en parental. C'est-à-dire que j'ai eu droit à des horaires modifiés par rapport à mon statut. Sinon, j'étais d'après-midi. Donc, j'avais des fermetures à 10 heures. Donc, incapacité de voir mes enfants. Puisque le matin, ils sont à l'école ou en garde. Donc, je le voyais que le lendemain, matin, dans les meilleurs des cas. Alors, cette grève a commencé un jour parce que c'était du national, c'était une revendication. Et puis, le dégoût des employés pour tout ce qui se greffe au niveau argent et conditions de travail a fait que ça a duré 16 jours. Donc, 16 jours, j'ai la chance d'avoir un mari qui est opérationnel. Donc, 16 jours, c'est lui qui s'est occupé des enfants. Tout ce qui est rentrée de classe, pour manger à la cantine, pour aller chercher les enfants. Et puis moi, j'étais vraiment en stand-by pendant 16 jours. Donc, faire les jours, les nuits dans le magasin, quoi, dans le magasin, dans le parking, pour empêcher les camions de rentrer, pour être au courant de ce qui se passait.
Le parking des livraisons, cet espace qu'elles ont tenu pendant 16 jours, c'était le lieu de lutte. La grève a été en majorité une lutte de femmes.
Vous dites que les femmes seraient peut-être plus révoltées.
Bah oui, parce que je pense que c'est... Alors, il ne faut pas croire, mais on est beaucoup de femmes seules ici. Hein. Et ouais, donc quand vous gagnez 950 euros par mois, et que vous, comme mon cas, que je vous sortais 450 euros de loyer, je parle que du loyer, je ne parle pas de l'EDF. Bon, je ne suis pas imposable, évidemment, avec les salaires misères que j'ai, on risque pas de... Quand vous payez votre loyer, quand vous payez l'électricité, vous payez l'assurance voiture, parce que quand c'est ça 10 heures, il n'y a plus de bus, hein, il vous faut une voiture minimum. Qu'est-ce qu'il vous reste pour manger ? Rien.
Ce genre d'emploi précaire, associant temps partiel imposé et bas salaire, est quasiment réservé aux femmes. C'est une réalité statistique.
82% des temps partiels sont des femmes. Une femme sur trois travaille à temps partiel contre un homme sur 20. Aucune forme d'emploi n'est à ce point sexuée. Souvent présentée comme une fleur faite aux femmes pour qu'elles puissent s'occuper de leurs gamins, c'est en fait un outil de flexibilité pour le patronat.
Ben moi, j'ai une base de contrat de 30 heures. Si je fais dans la semaine 37 heures, les 7 heures qu'il y a, ils vont dans mon compteur. Donc si par exemple un jour je suis fatiguée et que j'ai envie de partir, ben, ils les récupèrent dans mon compteur pour ne pas me les payer.
Dans un couple, ça fait un salaire d'appoint pour joindre les deux bouts.
Qui est-ce qui me ramène un salaire ? C'est mon mari. Donc c'est lui qui privilégie son travail. Donc c'est à moi de privilégier les enfants, parce que mon salaire, eh ben, c'est le plus bas de la famille. Donc je suis obligée, moi, de faire des sacrifices. Ça aurait été mon mari qui avait le salaire le plus bas, ben, ça serait lui qui fait les sacrifices.
Le parking, c'est maintenant le lieu de la pause clope. On y rencontre un groupe de jeunes caissières qui nous racontent les joies de la grève.
Et en fait, vous étiez là jour et nuit.
Oui, nous, oui, c'est vrai.
Nous, on fait partie des filles qui
nous,
sont
dormi matin, midi et soir, qu'on était là tout, non, pendant 16 jours, qu'on était là toute la nuit, toute la journée. On a combattu le CRS, on était là et on est rentré pour rien.
Comment ça, voilà.
Ben, le directeur, vu qu'on ne laissait pas rentrer les marchandises, sa seule solution, c'est de nous envoyer les CRS. Donc il faut savoir que les CRS ont quand même frappé une femme enceinte. Elle a été hospitalisée. Malheureusement, elle a repris le travail parce qu'il faut bien travailler, il faut bien gagner sa vie, voilà.
On a été traité d'injustice aussi, deux fois, parce qu'on a bloqué l'accès de la galerie. Oui, non, les livraisons, on a bloqué tous les jours, on a bloqué 16 jours. Mais les accès, 16 jours. 16 jours d'accès, ouais. La nuit, on reste là pour bloquer les camions, en fait. Voilà, on allait là, dès qu'il y a un camion qui arrivait, on disait, on fait la grève, repartez. Mais les accès, nous avons bloqué deux fois, et les deux fois, on a été traité d'injustice. Voilà.
Mais là, pendant les piquets de grève, etc., vous faisiez comment pour prendre des décisions, par exemple, d'un jour sur l'autre
Tous les soirs, il y avait une assemblée générale, en fait. On demandait qui voulait continuer, qui voulait rentrer. Et la majorité du choix, c'était de continuer, donc on continuait le lendemain.
Et il y avait du monde à ces assemblées,
ça? Oui, il y avait... au début de la... Enfin, je pense que la première semaine, il devait être à peu près 400 ou 500 sur 600, non? On est combien? On était 80% des employés. Et donc, au début, il y a tout le monde qui était là, donc on prenait beaucoup de décisions. Et c'est vrai qu'à la fin, il y a beaucoup de monde qui ont commencé à rentrer. Donc, il y avait moins de monde, mais...
Et je me rends pas compte, c'était plus unanime au niveau des caissières ou c'était un peu tout le monde?
Non, c'était tout le monde. Ouais.
C'est vrai que la majorité, c'est les caissières. En grève, si toutes les caissières sortent, le magasin est fermé. Parce que sans caissière, le magasin ne peut rien faire.
Il y en a qui ne sont pas sortis. Ils ont dit, nous, on est très bien payés, on n'a pas besoin de rien. Et quand le verdict est tombé, ils ont dit qu'ils allaient nous donner 80 000 euros, ils ont dit, ben nous, on va manger les 80 000 euros aussi. Ils ont dit, comment, tu n'as pas voulu sortir, maintenant tu veux des sous? On dit, ah ben, c'est normal, vous êtes battus, ben, maintenant on récolte les lauriers. J'ai, ah, d'accord. Non, comme ça, eux, ils se font bien voir auprès de la direction. Nous, on se fait mal voir, normal, hein, parce qu'on était tout en dehors en train de crier, de chanter. Et maintenant, en attendant, eux, tout le monde leur fait confiance. Et nous, on discrédite tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait.
En train de crier, de chanter?
Ah oui, chanter avec le microphone. Si tu veux pas augmenter, parle à ma mère. Si tu veux pas négocier, oublie-moi. Après, on disait, la grève, elle est trop bien. La grève, elle est trop bien. J'ai pas remarqué. Voilà, franchement, il y avait une bonne ambiance. Voilà. Ce côté ambiance, c'est vrai que...
L'ambiance, elle y était, ouais.
Y avait,
Parce que vous étiez nombreux la nuit, nombreuses.
La nuit, moi, je restais pas, mais bon, c'est vrai
la
qu'on
La première
était beaucoup,
nuit, ouais. On était 5. Parce qu'il y a personne qui savait qu'on faisait la nuit. Donc entre nous, on s'est fait une petite grillade et tout. On a joué, on remet ça.
Entre filles ou...
On était, il y avait nous, les filles, on était un groupe de 6 filles tout le temps, tous les soirs, toutes les nuits et toutes les journées. Et il y avait 2-3 mecs à peu près. Et après, on a fait passer le mot comme quoi on était là le soir aussi. Donc tout le monde venait petit à petit. Et c'est vrai qu'après, ils venaient gens de l'extérieur. Donc on se retrouvait des fois à 50, 60 le soir. Déjà, la nuit, c'est beau. Bon, on dormait un peu dans les voitures aussi. On n'était pas réveillés toutes les nuits. Même ma chef, elle m'a dit, moi que je suis toujours en retard, elle m'a dit, je ne vous ai jamais vu arriver aussi à l'heure. À 5h du matin, j'étais en train de me brosser les dents. Elle m'a dit, je ne vous ai jamais vu arriver à l'heure. J'ai dit, ouais, mais la grève, j'étais trop plate. Non, ça va.
Ben non, nous, on ne voulait pas rentrer personnellement, on ne voulait pas rentrer. On est rentré de force parce qu'ils ont
signé. Le délégué syndical qui a, de la CFDT qui a voulu, il est allé signer sans nous faire voter.
Voilà.
Sans voir si on était d'accord ou pas d'accord.
Vous êtes rentré de force?
On est rentré de force, oui, on est rentré de force. Mais il le sait de toute façon. Il
faut dire que si on aurait continué, on aurait peut-être abouti à quelque chose parce qu'il y avait des carrefours qui rentraient avec nous.
Une semaine, tu faisais un poste.
Et alors, comment, il y a eu une assemblée générale après la signature et...
Non.
Le samedi, ils ont
il a fait l'assemblée générale et il a dit voilà. Et il a dit voilà, on nous propose ça, moi je monte et je signe. Voilà, il ne nous a pas demandé notre avis.
C'est-à-dire que d'abord il a appelé les trois quarts, enfin, les personnes qui faisaient partie de la CFDT, là on va demander ce qu'ils en pensaient. La majorité de la CFDT a voulu rentrer, donc pour lui, pour la CFDT, ils ont dit on va rentrer puisque les trois quarts de. Comme je sais plus comment dire, de ceux qui sont avec la CFDT ont voulu rentrer.
D'employés aussi, ils sont sans étiquette non plus. Là, voilà.
Ils venaient tous avec leur banderole, un coup CGT comme ça, un coup CFDT. C'est pas une grève pour le syndicat, c'est une grève pour les employés avec ou sans étiquette. Franchement, ça m'a énervé. Tellement j'ai dit, moi, si ça continue, je rentre chez moi, je viens pas. Pourquoi je me déplacer? Je crois, mets l'étiquette, c'est bon. Non? Comment là, tu es déguisé? La grosse banderole là, la mise, la casquette, le badge.
Parce que pour savoir qu'on n'est pas assez payé, on n'a pas besoin de.
Ouais, voilà, je sais pas eux qui vont nous payer. Il y avait trop des clans, ça faisait les clans, les CGT à gauche, la CFDT à droite, franchement, voilà. Non, nous, on a récolté 20 euros, nous, on a récolté 100 euros, mais c'est bon, c'est tous ensemble. Dans une grève, il n'y a pas, c'est à la fin que tu dis ou au début. Nous, on est là, mais pendant la grève, il ne doit pas y avoir ça. Voilà. Et ça, franchement, c'est, je crois que c'est à cause de problèmes syndicaux qu'il n'y aura pas de grève comme ça encore de 16 jours. Ou...
Le 16 février, la CFDT signe un accord de fin de conflit. Dedans, presque rien sur ce qui était demandé. Sur la fin des temps partiels imposés, rien.
Sur la prime exceptionnelle de 250 euros, rien. Sur la fermeture à 21 heures en hiver, rien. Ce qu'il y a, c'est 80 000 euros de subventions exceptionnelles versées au comité d'entreprise et une augmentation du ticket restaurant de 50 centimes au lieu des 1,50 euros demandés. Et encore, cette augmentation est soumise à condition que les pertes liées au vol et à la casse passent sous la barre des 2%.
Pour la grève, on n'a rien eu, mais alors rien. Pour les tickets restaurants, pour l'augmentation des tickets restaurants, il faut qu'on fasse à la sécurité. Il faut qu'il y ait le moins de casse et de pertes possibles dans le magasin.
Finalement, pour les patrons, le manque à gagner lié à la grève s'est élevé à 3 millions d'euros, l'équivalent de 2 740 années de tickets restaurants.
N'était pas indispensable à la prospérité du capital. On ne nous les servirait pas partout, toujours, à coups de fric, à coups de flic. N'était pas le meilleur antidote contre nos grèves et nos révoltes. On ne nous la scènerait pas à tous les coups, à coups d'assemblées syndicales.
À la fin de notre combat, on va dire les derniers jours, le vendredi et le samedi, on a eu beaucoup de magasins qui sont venus nous rejoindre, qui ont débrayé, qui étaient vraiment avec nous là. Mais bon, on a lâché le morceau avant. C'est peut-être qu'ils se seraient mis en grève aussi.
Mais bah, c'est pas vous qui avez lâché, c'est...
Oui, c'est pas nous, mais ben, on n'a pas le choix, on va dire. Hein? Nous, on a beaucoup eu de soutien, hein, mais de tout le monde, parce qu'on a eu des dons, on a eu... Franchement, ça a été, mais de tout, les dockers, les bateaux de pêche qui arrivaient au port, ils nous ont dit venez à telle heure, ils nous ont donné le poisson frais qu'ils avaient pêché. Ah oui, on a eu des soutiens de tout le monde. Hein, hein. Nous, c'est notre patron qu'on aimerait en avoir un peu. Voilà,
ouais,
c'est
vous voyez la suite.
La suite, je vois très mal, à moins qu'on leur foute le feu, je vois pas d'autre solution. Parce que là, on est toutes révoltées et je pense pas qu'on va en rester là. Ils ont rien cédé. Puis quand un patron vous dit dans la figure, je préfère perdre je sais pas combien de millions d'euros plutôt que de vous en donner 190 000, parce que ce qu'on réclamait, ça représentait que 190 000 euros, il ne faut pas beaucoup qu'il y ait de figure, hein, parce qu'il n'y a pas de problème de fin de mois, lui. Hein, ça aussi, nous l'a fait comprendre.
Je dirais la seule chose qui, à mes yeux, a changé, c'est que nous, employés, on a appris pour certains à se connaître, parce que c'est vrai que les caisses et les employés de rayon ont du mal à se rencontrer par rapport aux horaires, par rapport aux salles de pause, etc. Donc ça nous a permis de voir un petit peu les autres problèmes qui pouvaient se trouver, parce que moi, en étant employé rayon, je savais quelques problèmes de caisse, mais je ne savais pas tout. La grève, après, qu'est-ce qu'elle apporte? Je veux dire, elle ne nous a pas apporté grand-chose. Hein, au niveau, on a pratiquement rien perdu, mais on n'a rien gagné. Tout ça se parle au niveau national. On dit que s'ils nous donnent à nous, ils sont obligés de donner à tous les autres magasins, en gros. Donc, ils ne veulent pas lâcher, quoi. Même pour 20 centimes sur un ticket resto. On ne peut même pas penser, je veux dire, à dire on va partir un mois en vacances. Un mois en vacances, c'est quand même pas la mer à boire, je veux dire. Eh bien, on n'y arrive pas. Alors, bon, ben, la grève, ça a servi à quoi? Ben, justement, à discuter de ça. Surtout, je pense qu'on a fait grève pour montrer qu'il y avait un ras-le-bol. Dans cette grève, on s'est retrouvé des gens qui sont bientôt à la retraite. Des gens qui sont battus, donc ces gens-là qui sont à un an de la retraite, à 6 mois de la retraite, qui sont battus pour les autres. Des étudiants qui ont participé à la grève. Or, ceux qui n'ont pas pu participer, bien sûr, c'est la loi. C'est tous les malheureux qui étaient convaincus comme nous, mais qui, eux, ils avaient des CDD et qui ne pouvaient pas se permettre d'exprimer ce qu'ils pensaient. Alors, c'est vrai qu'on est dans un pays, soi-disant, on a le droit à s'exprimer, on a le droit à la grève, Moi, j'ai constaté qu'en faisant la grève, eh ben, on n'avait pas droit à grand-chose, en fait. On avait droit à se faire petit, discret, et surtout qu'on ne parle pas de vous. Moi, on me prend, quand je parle, on me dit, tu sais, Christelle, tu rêves. Alors, peut-être que je rêve de demander 250 euros net sur mon salaire, c'est peut-être un rêve. Mais quand je pense que M. Sarkozy, eh ben, lui, il se permet de s'augmenter son salaire, les patrons se permettent d'augmenter leur salaire, et les ouvriers, quand c'est qu'ils peuvent augmenter leur salaire? Donc, où va tout ça? Moi, ce que j'espère de tout ça, c'est que les gens, ils vont se réveiller et qu'ils vont voir que, oui, c'est possible de se battre, c'est dur, c'est pas facile, mais oui, c'est possible de se battre pour des convictions, donc d'aller jusqu'au bout et que l'union fait la force, quoi. C'est un petit appel, quoi, que les gens, ils se révoltent, et surtout les femmes, parce que de nos jours, les femmes, comme on dit, ben, elles ont un double travail. Elles ont le travail au travail et le travail à la maison.
Dégenré, Radio Kaléidoscope 97 FM, Dégenré, une émission féministe diffusée les 2e et 4e mercredis de chaque mois. Rediffusion le lundi qui suit à 18h30.
19h pour le lundi.
Après ce reportage sur les luttes des caissières de Carrefour, que je trouve vraiment hyper intéressant, ce reportage... Voilà, elle donne la patate, ces meufs, franchement, big up à elle, quoi.
Ouais, puis je trouve aussi dans le truc que, bah, que quand tu t'allies avec d'autres, enfin, je trouve ce qui est un peu aussi notre truc de l'émission, c'est que quand tu restes pas isolé, en général, la société fait tout pour nous isoler ou aussi nous diviser, et aussi entre femmes. Et quand tu fais des alliances, bah, déjà, t'obtiens des trucs. Ou après, ben, vu que l'adversité en face est forte, t'obtiens pas toujours tout ce que tu veux. Mais j'ai l'impression qu'aussi ce dont elle parle, c'est le truc de qu'est-ce que ça a créé entre elles comme truc d'amitié, de solidarité, de moments forts. Et en dehors de qu'est-ce qu'elles ont obtenu par la grève, en fait. Et qui est aussi un des aspects qui est hyper chouette là-dedans.
Oui, parce qu'effectivement, elles ont plutôt rien obtenu. Et ça, c'est plutôt déprimant de voir qu'une aussi belle lutte... bon, ben voilà. De toute façon, nos dirigeants... nous écrase toujours, quoi. Enfin...
Ah, mais d'ailleurs, à ce propos, on peut vous inviter ou réinviter, parce que vous, sûrement vous êtes déjà au courant de la grève et de la manifestation du 19 mars, donc du jeudi. En tout cas, voilà, à Grenoble, la manif partira à 10h de la gare. Et voilà, c'est une bonne occasion de venir exprimer votre rage, votre colère, vos revendications dans la rue, de la manière qui vous conviendra le plus. Et c'est ça, au 19.
Retrouvons-nous là-bas. Alors, je vais peut-être quand même présenter le morceau de musique qu'on a écouté. Alors, c'est un morceau d'un groupe allemand. Alors... j'ai tenté de traduire, d'après mes souvenirs de terminal il y a 10 ans, le petit présentation en allemand. Alors le groupe s'appelle Prinzessinhorst. Je sais pas trop ce que ça veut dire, à part que Prinzessin, j'imagine que ça veut dire princesse. Mais je suis même pas sûre. En gros, c'est un groupe, elles se définissent comme un groupe entre la chanson, le punk, le rock, trash, bis, je sais pas trop. Elles sont trois... elles, ils sont trois, et ça fait trois quarts d'année qu'elles existaient au moment où ça a été enregistré. Je pense que y a une, c'est assez revendiqué le côté un peu à l'arrache, avec les guitares, l'accordéon, les petits, les espèces de jouets pour enfants qui servent à faire de la musique, et le côté un peu du coup amateur, quoi. Et, parce que c'est surtout des chansons militantes et politisées, que ce soit sur les questions de genre, mais aussi sur des questions de politique, notamment de la ville, parce que c'est des les personnes
de Berlin,
voilà, c'est les personnes qui font ce groupe, elles habitent à Berlin, et je pense un certain nombre d'entre elles, sur les trois, je sais pas tout ou quoi, mais habitent dans un Wagenbourg. Un Wagenbourg en Allemagne, il y en a pas mal. C'est des espaces squattés sur lesquels ils mettent leurs camions, leurs roulottes, des caravanes et tout ça. Et voilà, c'est pour ça Wagenbourg. Et c'est donc vraiment des espaces de vie collective et qui souvent sont menacés. Et là, à Berlin, c'est de plus en plus menacé puisque c'est vraiment la nouvelle capitale de l'Allemagne, qui sont en train de complètement rénover, qui sont en train de vraiment aseptisé, alors que justement c'était une des villes d'Europe occidentale qui était assez vivante et assez riche de plein d'alternatives et tout. Bon, ben là c'est vraiment en train de s'aseptiser de plus en plus, et du coup ce groupe là fait partie des luttes contre cette aseptisation de Berlin. Voilà. Et on a trouvé cette chanson sur un CD de soutien au Ladyfest de Berlin. Je ne sais pas si on a toujours à Berlin des Lady Fest. Il y en a eu pendant plusieurs années de suite l'été. Renseignez-vous.
Si, ouais, je pense qu'il y en a toujours un par an.
Non, moi, j'avais entendu dire que peut-être elle voulait arrêter. Ah. Alors, je ne sais pas. Il vaut mieux aller se renseigner sur Internet si est-ce qu'il y en aura encore un cet été ou pas. C'est vrai qu'il y en avait un par an ces dernières années.
Et la chanson, c'est Schwarzer Kanal.
Et voilà.
Donc, Schwarzer Kanal, c'est un Wagenbourg... donc un terrain squatté à Berlin, qui a la particularité d'être un Wagenbourg qui se définit comme queer, féministe. Alors queer, on pourrait dire transpédéguine à la place pour aller vite. Entre autres de l'habitation collective, il y a aussi des événements qui se passent là-bas, des concerts, des soirées, des projections, des trucs comme ça. Et c'est aussi un des Wagenbourg en lutte pour son existence actuellement.
Oui, dans un quartier qui est particulièrement soumis, je crois, à la rénovation, je me souviens.
Gentrification.
Tout ça. Un soutien aussi avec les Berlinois et Berlinoises. Ce soir, nous pensons à tout le monde. Et d'ailleurs, on voulait parler du Ladyfest. On parle de Ladyfest. Un Ladyfest en France, il va y en avoir un bientôt à Toulouse. Ce sera la semaine du 14 au 19 avril. Et donc, on n'a pas le programme sous les yeux, mais il va y avoir des ateliers la journée, le soir probablement des concerts, des projections, des débats politiques sur les questions de genre, de féminisme. Alors peut-être, est-ce qu'on parle un peu des Lady Fest ? Qu'est-ce que c'est qu'un Lady Fest ?
Oui, tout à fait. Alors, rapidement, un Lady Fest, on pourrait dire que c'est un festival qui cherche à promouvoir les cultures, les politiques de femmes, de gwyn, de trans, de féministes. C'est un événement féministe. Quand je dis culture, c'est aussi les politiques, les luttes, et c'est vraiment au sens large. Avec, après, ça dépend, il y a des Lady Fest un peu partout dans le monde.
Bon, il y en a de plus ou moins commerciaux ou plus ou moins alternatifs, ouais. Do it yourself, quoi.
Partout dans le monde, je pense que c'est plus répandu dans les pays occidentaux.
Partie nord du monde.
Mais quoi qu'en fait, je pense qu'il y a eu aussi du sur dans différents endroits quand même. Après, si vous voulez avoir plus d'infos, vous pouvez aussi aller sur internet où il y a un peu la liste de tous les Lady Fest organisés. Donc il y en a des plus ou moins commerciaux, mais il y a un certain nombre de Lady Fest où l'idée aussi dans l'idée de culture ou de pratique artistique, c'est aussi le DIY, c'est-à-dire le fais-le toi-même, que t'as pas obligatoirement besoin de beaucoup d'argent, d'être spécialiste en musique, d'avoir fait des années d'études d'art ou je sais pas quoi pour produire, pour t'exprimer, pour montrer tes créations, etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi cet état d'esprit-là qui anime les Lady Fest.
Oui, je me souviens que quand il y a eu un Lady Fest à Grenoble il y a 2 ans maintenant, je me souviens que ça avait été l'occasion, par exemple, d'échanges de savoir pour la sonorisation des concerts, où souvent c'est, on voit des mecs derrière les tables de son, et que ça, il y a plusieurs meufs qui y avaient participé, et qu'après, durant le festival même, ces filles-là avaient assuré la sonorisation des concerts, ce que je trouvais une belle mise en pratique de ce truc de mise en commun de nos savoirs.
Ouais, effectivement, souvent il va y avoir des échanges de savoirs divers. Ça peut être sérigraphie, apprendre à faire des affiches, DJ, apprendre à mixer. C'est accessible à toutes de commencer. Je sais pas, moi je me rappelle, j'avais participé en Allemagne à un atelier soudure. Il y a aussi l'idée, vu que c'est un événement féministe, des fois de se réapproprier aussi des domaines qui traditionnellement sont plus masculins, comme par exemple la soudure ou voilà d'autres choses comme tu disais, la sonorisation. Donc voilà, si vous voulez avoir plus d'infos sur le Lady Fest de Toulouse, je pense que c'est possible de rechercher sur internet ou de nous écrire à degenre@boom.org. Donc degenre, degenre, @boom.org.
C'est d'ailleurs l'occasion de vous rappeler que nous avons mis en ligne un certain nombre de nos anciennes émissions. Ça fait depuis 6 ans, alors il y en a un certain nombre des anciennes qui sont sur Internet. Et alors, effectivement, on a des genres, c'est aussi une distro, c'est aussi, on diffuse aussi des écrits, des textes féministes. Alors, on peut les trouver sur un site qui s'appelle infokiosque.net, comme tu disais tout à l'heure. Mais pour nos émissions de radio, elles sont en fait sur un autre site qui est Indimedia Radio. Mm-hmm. Mais bon, voilà, on a mis des liens entre les deux sites. Alors effectivement, si vous allez sur infokiosque.net, vous pourrez être envoyé sur Indimedia Radio pour avoir accès à nos anciennes émissions.
Et alors, en parlant d'histoire, de lutte et entre autres autour du logement, on voulait vous parler aussi... d'une action qui a eu lieu, enfin qui a quelque chose aussi qui continue, qui est le groupe femmes du collectif Défends-toi.
Voilà, alors ça fait plusieurs mois maintenant que, donc ça fait déjà plusieurs années que le collectif Défends-toi lutte à Grenoble et l'agglomération grenobloise, dans toute l'agglomération grenobloise, pour des logements décents, accessibles pour tout le monde.
Ouais, que ce soit au niveau des locations ou des squats, enfin voilà, voilà.
Pour les locataires précaires, pour les squatteurs, pour tous les gens qui galèrent avec le logement, et ça fait beaucoup de monde. Et là, depuis plusieurs mois, Défends-toi a fait régulièrement des permanences sur le marché de Saint-Martin-d'Hères à Chamberton. Et en faisant ces permanences-là, ces tables de presse sur le marché, et en rencontrant plein de monde, à Défends-toi, Défends-toi s'est rendu compte que les femmes étaient souvent assez concernées, particulièrement concernées par les problèmes de logement. D'ailleurs, plusieurs femmes le disent souvent. Ah bah oui, c'est les femmes qui gèrent la maison, c'est les femmes qui gèrent le logement. Et donc, d'où l'idée de créer un groupe femmes au sein de Défends-toi. Et ce groupe femmes se réunit depuis la rentrée, à peu près, depuis septembre, en se rendant compte que, ben, effectivement, là, il y avait vraiment des problèmes concrets et qu'il fallait gérer rapidement, qu'il fallait régler rapidement, puisque je pense notamment à une femme qui est expulsable, là, au 15 mars, donc très bientôt. Pour des problèmes de difficultés de paiement de loyer, mais enfin bon, c'est des situations très complexes. La pauvreté, c'est pas simple. La pauvreté, c'est même pas agréable à entendre. C'est toujours des embrouilles pas possibles. C'est ça aussi qu'on découvre, hein, vraiment. Donc voilà, en tout cas, elle est expulsable. Elle a un nouveau-né. Elle a une petite fille de 10, 12 ans, je ne sais plus. Enfin bon, voilà. Donc des situations très concrètes comme celle-là, on s'est dit, ok, on va... Elles se sont dit qu'elles allaient lutter et faire des choses. Donc elles ont... Elles ont invité à une action à la mairie de Saint-Martin-d'Air. C'était le 3 février 2009. Il y avait, je sais pas, je pense bien une cinquantaine, soixantaine de personnes, ouais, facilement, qui ont investi la mairie au matin, du 3 février, et qui ont demandé une entrevue avec des responsables de la mairie de Saint-Martin-d'Air pour pouvoir régler les situations urgentes et gravissimes d'un certain nombre de femmes. Donc il y a l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, je pense aussi à une autre qui vit dans un appartement qui prend l'eau en permanence. Dès qu'il pleut, l'appartement est inondé. On imagine les problèmes de salubrité, qui du coup, comme il n'est absolument pas isolé, elle a des factures, évidemment son chauffage électrique individuel... Donc elle a des factures de fou, de folle, sans argent, tout ça. Donc on imagine le problème. Donc elle demande un relogement, elle ne l'obtient pas. Tout un tas de problèmes très très concrets, de situations très concrètes qui ont été présentées aux élus de la mairie de Saint-Martin-d'Air ce jour-là. À la sortie de cette action, ça semblait plutôt satisfaisant. Les élus avaient fait des promesses, s'étaient engagés à trouver des solutions, que ce soit des relogements ou que ce soit des travaux ou des choses comme ça. Et évidemment, là, nous sommes un mois plus tard, bientôt le 15 mars pour les situations les plus urgentes. Et en fait, les promesses étaient une fois de plus des promesses en l'air.
Oui, c'est-à-dire que, étant donné aussi qu'il y avait les médias, quand il s'agit de faire des belles paroles, etc., il y a eu des choses de dites, etc., devant les médias. Et là, actuellement, rien n'avance. Et on voit encore une fois de plus, c'est la langue de bois des politiciens qui parlaient. Ce qui n'est pas ultra étonnant, mais ce qui veut dire qu'il va falloir se remobiliser à nouveau.
Voilà, parce que les dossiers stagnent, tandis que de l'autre côté, les personnes continuent à galérer, quoi. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver le collectif Défends-toi un samedi matin par mois. Alors, je ne sais pas lequel c'est la prochaine fois, sur le marché de Chamberton à Saint-Martin-d'Air. Dans le cadre de ce collectif-là, il y a des femmes de ce groupe femmes. Et vous tenir au courant, toujours en lisant régulièrement sur Indie Média Grenoble, en écoutant des genrés, on vous tiendra au courant s'il se passe des choses. Et voilà, et on peut que interpeller, continuer d'interpeller, enfin on peut faire d'autres choses, mais continuer toujours aussi d'interpeller les élus de Saint-Martin-d'Air et de toute l'agglomération grenobloise sur leurs responsabilités quant à ces situations par rapport au logement.
Oui, on va venir à la mairie de Grenoble, hein, dans pas longtemps. Juste pour dire un truc de plus sur ce groupe femmes. C'est que on avait vraiment envie de vous inviter aussi, si vous avez accès à Internet, à lire le texte qu'elles ont écrit, qui est lisible sur Indie Media, et qui a un appel qui est vraiment, je trouve, hyper chouette et fort, où elle revendique aussi ce truc de pas toujours... Enfin, que quand on se retrouve dans des situations de précarité, etc., ça veut dire aussi tout un flicage social et toute une espèce de truc d'infantilisation par les assistantes sociales, par tout ce système où on vous dit « mais faut pas trop être exigeante, mais faut être patiente, mais pourquoi vous habitez avec votre fils qui est majeur, mais pourquoi vous restez pas avec votre ex-mari, enfin etc., etc. » qu'on est toujours en train de donner des leçons et que, en gros, ce qu'elles disent, entre autres, c'est qu'elles en ont marre d'être prises pour des sous-individus, d'être prises pour des connes, de se faire parler sur... qu'est-ce qu'elles doivent faire, qu'est-ce qu'elles doivent pas faire, et qu'elles ont droit à un logement décent qui leur convient.
C'est pas du luxe en fait. C'est pas du luxe de vouloir que tous les enfants aient leur chambre, de vouloir que soi-même on ait sa chambre. Je pense aussi à une des femmes là qui a 3 ou 4 enfants, un compagnon et qui dort depuis je sais pas combien d'années dans le salon vu qu'ils sont dans un F3. Enfin, c'est pas du luxe les revendications des gens quoi. Tout le monde a le droit à des minima qui sont qui devraient être plus des maxima d'ailleurs. Enfin, en tout cas voilà.
Ouais, etc. Je pense aussi à une autre femme, je crois qu'elle habite à je sais plus quel étage, alors que je crois qu'elle a des problèmes de déplacement, qu'elle est malade, je sais pas, etc. Enfin, des choses en fait assez concrètes. Et ce qu'il faut savoir qui est en lien avec ça, c'est qu'il y a un nombre quand même assez effroyable à Saint-Martin-d'Hères, mais en fait à Grenoble, sur toute l'agglomération grenobloise, de logements vides, et entre autres de logements sociaux, ou de logements qui appartiennent aux municipalités. Là, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est assez effarant.
Alors effectivement, quand on les compare aussi aux nombreux années d'attente sur les listes d'attente pour obtenir un logement, des personnes qui sont dans des logements qui étaient censés être provisoires depuis plus de 5 ans, les problèmes de logement sont hallucinants sur l'agglomération, et il faut en parler, il ne faut pas avoir honte d'en parler. Et puis parce que c'est aussi toujours, de toute façon, c'est en se battant, c'est en haussant la voix, c'est en allant gueuler qu'on réussit à faire bouger les choses, et en étant solidaire, encore une fois.
Ouais, et d'ailleurs, à ce propos, si vous voulez aussi en savoir plus, le jeudi 12, donc demain, si vous nous écoutez en direct, à la Maison des Associations, donc qui est rue Berthe de Boissieu, vers toujours un peu le quartier de la caserne de Beaune, là où ils sont en train de faire des super apparts de luxe. Il y a une réunion par rapport au retour des expulsions suite à la fin de la trêve d'hiver, avec différentes assos qui bossent sur ce sujet-là. Donc c'est à 19h. Toujours dans ce truc à l'hypocrisie de la municipalité, je voulais juste parler vite fait dans les trucs assez frappants sur les logements vides, d'une situation à Grenoble cet hiver où en fait la mairie s'est quand même retrouvée à louer des espèces de cubes en bois de la biennale du développement durable à une association de SDF. Alors ça, c'est rue des Alliés. Et ce qui est quand même assez incroyable, c'est que rue des Alliés, il y a un immeuble qui est énorme, qui est en super bon état, où il y a l'électricité, l'eau, etc., qui a déjà été squatté, évacué 2 fois. Et en fait, qui est complètement vide. Hein. Je veux dire, il y a juste les assos qui ont droit à, je crois, brancher leur élec ou un truc comme ça. Mais il est vide depuis des années. Il est juste en train de pourrir. Il a déjà été expulsé. Et sur le terrain, il loge des SDF tout cet hiver dans des espèces de cabanes en bois qui sont complètement inchauffables, ultra pourries. C'est vraiment des cubes. Ça fait 4 mètres de haut. Et il loue ça à la sauce 230€ la cabane. Plutôt, par exemple, que de loger les gens dans cet immeuble en hyper bon état. Donc ça aussi, ça montre encore une fois la politique de la mairie de Grenoble qui préfère mettre son argent pour se la péter avec les Jeux Olympiques parce que ça marche mieux pour faire venir des ingénieurs et des cadres. Par contre, les SDF, ils en ont clairement rien à foutre.
Décidément, on n'arrête pas d'être choqués. Moi, j'avais oublié cette histoire, mais c'est vrai que... Dans la suite des luttes, et pour puisqu'on en parle, on parlait de ça ce soir, j'ai envie de vous inviter à Antigone. Antigone, c'est une librairie, bibliothèque associative, autonome, indépendante, qui est 22 rue des Violettes à Grenoble. C'est la rue des Violettes, c'est vers le entre le pont de Catane, vers le Grand Boulevard et bref, tant pis. C'est regardez le plan, rue des Violettes. Alors, j'ai envie de vous inviter à un exposé féministe sur le Combani River Collective. Donc, les exposés féministes, c'est tous les mois à Antigone, une féministe qui propose de nous expliquer quelque chose, nous raconter une lutte ou nous expliquer un ouvrage, une auteure, tout ça. Et donc là, c'est un exposé sur ce collectif, qui est un collectif de féministes noires, formé en 1974. Et ces féministes sont activement engagées dans la lutte contre les rapports d'oppression sexiste, de genre, hétérosexuel et de classe et raciste. Leurs analyses sur ce qu'elles ont appelé l'imbrication des principaux systèmes de domination apportent un regard précis sur la manière dont cette dynamique crée et perpétue les conditions dans lesquelles vivent les femmes dites de couleur. Ces réflexions nous apportent un éclairage particulièrement intéressant sur leurs choix et leurs pratiques politiques et viennent nourrir les nôtres. Donc ça aura lieu le jeudi 26 mars à 20h, c'est à prix libre, à Antigone, 22 rue des Violettes, voilà, entre le pont de Catane et la rue des Eaux-Claires. C'est ça que je cherchais.
Alors, on va vous quitter avec un morceau de The Revengers, un groupe de féministes grenobloises, enfin et de la région et autour, Trièves, etc. Bref, qui est bien chouette, dont on vous a déjà passé des morceaux. Alors, celui qu'on a décidé de passer, c'est Bulldozer. Alors, en gros, bon, vous entendrez les paroles, mais ça parle de comment les diverses puissants de ce monde, politiciens, propriétaires, etc., détruisent nos vies, en fait, tout simplement. Mais avec un message aussi qu'à force de détruire nos vies, un jour, c'est nous qui vous détruirons.
Et rendez-vous le 25 mars pour la prochaine émission de Dégenré.
On avait construit un chapiteau de bois, on y faisait de la musique, on y échangeait des pratiques et des idées. On avait trouvé une maison inhabitée, on l'a occupée et colorée. Ça t'a pas plu, tu nous as expulsés. Respectable, d'avoir un travail salarié, de payer un loyer. Là où je posais ces pas dans tes papiers, t'as coupé les fonds. Sans pognon, ils m'ont licencié.